France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Puisque nous sommes à quelques jours de Noël, j'avais envie de vous faire un joli cadeau. C'est pourquoi j'ai invité Emmeline Bayard, découverte cet automne dans Fric Frac, où son talent comique fait un vrai tabac. Mais Emmeline Bayard est aussi une passionnée de chant et de chansons, créatrice d'un spectacle intitulé « Elle et lui ». Autant de bonnes raisons d'inviter celle qui vient également d'incarner Bécassine dans le film de Bruno Podalydès. Emmeline Bayard à ce micro dans quelques minutes, juste le temps d'écouter ce ravissant duo d'amour.
Merci, grand merci de m'encourager. Par toi de même frisson, chanson droite captivante par le vent, émouvante ou troublante chanson d'amour, chanson droite captivante par le vent, émouvante ou troublante chanson.
L'exquise Liliane Berton en duo avec André Malabrera dans cet extrait de l'opérette Chanson d'amour, vous savez, sur des musiques de Franz Schubert. Et c'est un disque rare, alors que j'ai retrouvé grâce à notre merveilleuse discothèque de Radio France, un disque paru en 1964 au Club National du Disque. C'était la collection des JMF et c'est tout un panorama de l'opérette viennoise en plusieurs disques vinyles sous la direction de Jean Laforge. C'est vraiment un petit trésor et je suis sûr qu'on en a encore beaucoup comme ça à redécouvrir.
Thank you.
souple. Élastique. Solide. C'est la gaine Scandale. Tout ce qui touche de plus près la femme est signé Scandale.
Ah, les gaines Scandale, toute une époque, surtout dans cette publicité de 1956 où vous voyez qu'on n'a pas hésité à recourir aux moyens de la musique concrète et de toutes ces techniques qui étaient alors seulement en train de naître. Et puis juste auparavant, c'était encore 10 ans avant, en 1945, une des plus belles valses de Joe Privat, intitulée Mystérieuse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre. France Musique.
Mais il est temps, sans plus attendre, de retrouver mon invité, je vous le disais, qui fait en ce moment un tabac au Théâtre de Paris dans Fric Frac, où elle fait mourir de rire tous ceux qui vont l'applaudir. Et puis moi, je suis aussi allé l'applaudir dans une petite cave parisienne, où elle présente un spectacle musical de chansons d'hier et d'aujourd'hui, intitulé « Elle et lui », aussi une très grande réussite. Voilà donc plusieurs bonnes raisons que j'avais aujourd'hui d'inviter Emmeline Bayard.
Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Et ça n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je puis m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même se jeter par la fenêtre. Oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Le premier jour qu'il m'a pris sa tendresse, il me fit peur tant il roula des yeux. Depuis ce temps-là, s'il me fait une caresse, j'en porte la marque et j'ai les bras tout bleus. À ses transports, souvent je me dérobe, car en amour, je sais que cet être-là va me déchirer mon jupon et ma robe. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il m'enlace, pas moyen que je m'échappe. Il me serre si fort par la respiration. Si sur la joue il me donne une petite tape, ça me fait tout de suite comme une fluxion. S'il me prend le bras, je suis sûre qu'il va me le tordre. S'il me pince le doigt, je suis sûre qu'il me l'écrasera. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Ah, quel plaisir quand on aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Si par hasard il mène à la promenade, c'est dans les chemins déserts et poussiéreux. Si quelqu'un passe, Raoul devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne, alors il faut voir comme Raoul me gifle en me criant déjà. Je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Ah, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça.
Bonjour Emmeline Bayard.
Bonjour Benoît.
On parle beaucoup, à juste titre, des violences faites aux femmes. Mais alors dites donc, dans cette chanson d'Yvette Guilbert, de la belle époque, il y a déjà tout ce qu'on peut imaginer.
Hein. Oui, exactement, tout ce qu'on peut imaginer. Alors certains y voient du grand féminisme pour dénoncer ça, et d'autres y voient quelque chose d'assez terrifiant.
Ah oui, de la soumission.
Voilà, je trouve ça assez amusant d'entendre les spectateurs diverger sur cette chanson, précisément sur celle-là.
Ah oui, vous sentez ça quand vous la chantez vous-même, les interprétations différentes qu'on peut en faire. Oui.
Exactement, et les retours qu'on me fait par rapport à ça. Moi, c'est une chanson qui me fait énormément rire, même si évidemment derrière tout ça, il y a de l'atrocité, mais je pense que c'est une chanson qui a été écrite pour faire rire.
Voilà, bah oui,
je pense
bah
que c'est
oui.
une chanson drôle avant tout et qu'il ne faut pas bouder son plaisir à l'interpréter. Je la trouve évidemment très bien écrite, c'est pour ça que
Il faut préciser d'ailleurs que c'est Yvette Guilbert elle-même qui a contribué à écrire cette chanson puisqu'elle a signé la musique.
Exactement.
Hein, sur les paroles de Paul
Decoq. Voilà.
Voilà.
Tout à fait.
En tout cas, voilà, je suis content de vous voir parce que quand je vous ai entendu chanter cette chanson et beaucoup d'autres dans la cave du Kibélé à Paris, j'étais saisi par votre art de jouer, de dire en musique, l'art de la diseuse notamment qu'on associait beaucoup à Yvette Guilbert. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle et si c'est un modèle qui vous sied, cette grande dame d'autrefois.
Oh bah oui, je suis très admirative d'Yvette Guilbert. Je l'ai effectivement beaucoup écoutée, sans jamais avoir envie de l'imiter, parce que je trouve qu'il faut surtout pas imiter les autres interprètes. Mais effectivement, oui, une grande dame, la diseuse de la chanson, la diseuse de fin de siècle, comme on la nommait. Mmh. Et oui, je suis une grande fan d'Yvette Guilbert. Ça fait beaucoup rire parce que quand même, elle a quelques années maintenant.
Oui, mais voilà. Elle est là avec beaucoup d'autres auteurs, compositeurs, interprètes que vous faites revivre dans ce spectacle. Des gens d'ailleurs de l'époque de Guilbert jusqu'à nos jours.
Oui,
on en reparle. Mais voilà, il y a ce goût de, je le redis, de dire en musique. Le curseur, c'est pas toujours facile parce que vous avez aussi pratiqué le chant dans votre jeunesse. Jusqu'où est-ce qu'on chante? À partir d'où est-ce qu'on dit en chantant? C'est un travail particulier?
Oui, tout à fait. C'est un travail particulier sur lequel je me suis penchée depuis assez longtemps, depuis le conservatoire, et qui n'est jamais fini parce que là, ce qu'on vient d'écouter, c'est une chanson que j'ai enregistrée il y a quelques années, et je me rends compte à quel point elle a évolué déjà dans l'interprétation.
Peut-être un peu plus timide là que ce que j'ai vu effectivement sur scène aujourd'hui.
Exactement. Hein. Après, c'est parce que aussi c'est un disque et qu'on n'injecte pas les mêmes choses quand on enregistre un disque que quand on est sur scène. Mais effectivement, c'est un véritable laboratoire pour moi, et je ne m'en lasse pas de retravailler sur effectivement ce parler-chanter, sur comment on passe du chant au parler, comment on casse la voix, comment d'un seul coup après on chante très bien, et tout ça au service de l'histoire et au service du sens, parce que ce qui est important pour moi en premier, c'est de restituer l'histoire et la musique sublime, la poésie.
Alors l'autre chose qui me frappe d'emblée en vous recevant, Emeline Daillard, c'est que vous êtes quand même, depuis maintenant plusieurs mois, tous les soirs, au Théâtre de Paris, dans Fric Frac, où vous avez un succès fou d'ailleurs, et on s'en réjouit, et il est très juste parce que vous m'avez fait énormément rire quand je suis venu à la première. Mais voilà, ça vous a pas empêché d'avoir envie quand même de continuer les rares jours de relâche, au moins une fois par mois, à faire votre petit spectacle. Vous avez besoin de chanter.
Oui. Exactement. Oui. Alors je le fais une fois par mois, en relâche le lundi.
Voilà.
Ça va comme rythme parce qu'il faut, enfin moi il m'en faut quand même des relâches. Il faut un peu de vide pour que le plein puisse être agréable. Et effectivement, oui, j'ai besoin de retourner dans ce cave-conce que j'affectionne particulièrement et de jouer, voilà, d'elle à lui.
Ouais. Et de chanter autant que de jouer d'une certaine façon parce que votre vie a toujours été un petit peu à la frontière de ces deux arts.
Oui. Alors je revendique qu'avant tout la comédienne quand même.
Oui.
Je chante évidemment, mais c'est encore une fois, c'est le jeu qui passe avant tout.
Même dans le chant.
Voilà, mais mélanger les deux, pour moi, c'est devenu une nécessité, et c'est pour ça que j'ai créé ce récital. Voilà.
Alors, on va reparler de tout ça, et puis pour bien en parler, le mieux c'est de raconter, ben justement, le sens, votre histoire, au moins un peu de votre histoire en musique.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au fréminois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. à ce que vous êtes coureur, moi je ne suis pas coureur. À ce que vous êtes menteur, moi je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur, à ce que vous êtes coureur. Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, coureur. La bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu. Assez bicyclette, bicyclette, non, réglage, je peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. Assez bicyclette, non, réglage, bicyclette. À ce que vous êtes coureur, moi je ne suis pas coureur. À ce que vous êtes menteur, moi je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir, vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
Alors ça, c'est vraiment pas du tout de votre génération, Émile Bayard. 1947, très 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 longtemps avant votre naissance, ouais. Bourvil. Et pourtant, ça vous a... Je me suis laissé dire que vous l'aviez entendue toute petite.
Oui, tout à fait. Il a bercé mon enfance, Bourvil. Comment c'est arrivé? C'est-à-dire qu'en fait, je prenais des cours de musique. Donc, j'étais en horaire aménagé quand j'étais petite. Et le matin, j'allais à l'école. L'après-midi, j'allais au conservatoire. Et en cours de flûte, on a travaillé La Tendresse. Ah. Et mon papa m'a dit, mais tu sais, La Tendresse, c'est une chanson qui était chantée par Bourvil, ah bon? Et il m'a acheté une cassette, à l'époque c'était encore les cassettes, de Bourvil. Et j'étais subjuguée par l'interprétation de Bourvil. Il me faisait rire, il me touchait énormément. Et j'ai écouté en boucle donc cette cassette. Ah oui. Et le premier titre de cette cassette, c'était « À bicyclette ».
À bicyclette. Voilà. Bah, votre père a été bien inspiré en tout cas, ouais, ce jour-là.
Ouais, ouais.
Tout ça, ça se passait dans le nord de la France. Vous êtes une ch'ti, on peut dire.
Oui, tout en fait. Ah, je suis une ch'ti.
C'est vrai? Ah, vous le faites bien. C'est vrai, oui.
Voilà, mais oui. Et fière de l'être, d'ailleurs.
Et fière
de l'être, oui.
Et vous avez grandi à Lille?
J'ai fait ma scolarité à Lille, mais j'ai grandi dans un petit village au sud-ouest de Lille.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes allé quand même très tôt, justement, dans ces horaires aménagés pour étudier la musique?
Eh bien, pur hasard.
Pur hasard.
Voilà. Voilà, j'étais dans une école maternelle, en dernière année, en grande section. Il y avait des tests effectués sur des enfants. J'ai été admise et on a demandé à mes parents, est-ce que ça vous intéresserait que votre fille suive à partir du CP ses classes à horaires aménagés? Ils ont dit oui. Et puis, ça m'a tellement parlé que ça a contribué aujourd'hui à faire ce que je fais quand même.
Voilà. Et vous avez alors donc pris des cours au conservatoire.
Oui, de Lille.
De Lille.
De
et
piano.
Avec donc ce professeur qui, notamment dans le chant choral, je crois, vous faisait spécialement travailler justement du répertoire de chansons.
Oui. Exactement, monsieur Lafeuille, je sais pas s'il nous écoute, et effectivement, et c'était assez fabuleux ce qu'il faisait avec nous, parce que il dégotait des chansons de Aznavour, Barbara, on a chanté Göttingen par exemple, et les comédiens,
et il les arrangeait pour nous,
ouais, voilà. Exactement, et on a vécu des années avec lui assez royales, assez remarquables, avec des textes formidables.
Voilà. Et alors c'est donc là-bas aussi, à Lille, que vous avez été remarqué par une grande figure du théâtre moderne, qui est Jean-Michel Rabeu.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est lui qui vous a un peu incité à monter à Paris, comme on dit.
Oui, exactement. Et je pense que s'il ne me l'avait pas suggéré très fortement, je n'y serais pas allée.
Vous seriez peut-être restée musicienne, au lieu de devenir comédienne.
Je devais devenir professeure des écoles.
Voilà,
et
c'est ça.
La veille de rendre mon dossier pour entrer à l'UFM, il me dit ça, et du coup je ne rends pas mon dossier.
Voilà, il vous a vu et il vous a trouvé formidable.
Oui, en fait, j'ai fait un atelier avec lui, ce qu'on appelle, une sorte de rencontre prof-étudiant sur Phèdre, sur le thème de Phèdre, dans un théâtre qui s'appelle La Rose des Vents, dans le Nord. Et à la fin de cet atelier, de ces quelques mois de travail ensemble, il m'a dit, écoute, vas-y, pars à Paris, tu peux y arriver, va chez Florent. Et j'ai fait tout comme il m'a dit. Je suis allée chez Florent, puis j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai eu la classe libre 4 mois après, le conservatoire.
Et le conservatoire, donc vraiment la voie royale, bon, et ensuite tout s'est enchaîné, effectivement. Ouais.
Ça rassurait mes parents, hein, quand même, parce que c'est pas évident quand on connaît pas du tout ce milieu de... Voilà, et puis qu'on n'est pas artiste, tout simplement.
Mais vous avez continué quand même à chanter pendant ces années de conservatoire.
Oui, toujours. D'ailleurs, on avait des cours de chant au conservatoire, un peu de cours de chant. Et mon professeur me disait, mais il faut que tu deviennes chanteuse lyrique. Et je lui disais, non, surtout pas, je ne veux pas, parce que je veux vraiment continuer à m'amuser avec la voix et à faire des choses qu'une artiste lyrique ne pourrait pas s'autoriser à faire.
Sauf dans le genre de l'opérette, mais on en parlera peut-être
tout
à l'heure.
Sauf dans le genre de l'opérette, oui. Et encore. Alors, mais,
Jacques Brel, ça faisait partie des choses de votre enfance. C'est vos parents qui écoutaient ça? C'était vous-même, devenue adolescente peut-être
Tout vient de la petite enfance quand même. Ouais. Hein. J'ai souvenir chez mes grands-parents, notamment d'entendre Brel, Brassens, évidemment. Et puis aussi Bachelet, évidemment, mon grand-père mineur de fond, les Courons, je les ai entendus retentir.
Même, en vrai,
tout à fait. Donc, c'était une atmosphère qui était là dès ma petite enfance. Et ça m'a évidemment marqué.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre, de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir de Mévisance. Madame traite son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est là.
Jacques Brel, c'était en 1977 dans Les Marquises, avec toujours les beaux arrangements de François Robert. Et c'était un choix de mon invité aujourd'hui, Emmeline Bayard, entre théâtre, cinéma, musique, chanson. On évoquait à l'instant, oui, bah, vos débuts, ou du moins votre arrivée à Paris, vos études au conservatoire et à Florent. Mm-hmm. Et puis, bah, les choses se sont enchaînées assez vite, Emmeline Bayard, mm-hmm. avec des rencontres évidemment marquantes. Je pense notamment, par exemple, à Jean-Michel Ribes ou Denis Podalydès, qui vous ont très vite repéré. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. À ma sortie de conservatoire, Jean-Michel Ribes m'a fait passer une grosse audition pour Musée au Musée Bas.
Musée au Musée Bas, voilà, à la fois au théâtre et ensuite au cinéma.
Oui.
Et puis Bruno Podalydès également.
Oui, tout à fait. Trois films avec Bruno.
On parlera tout à l'heure du dernier. Mais enfin, ouais. vous avez de la chance. Enfin,
oui,
de la chance,
oui.
Parce que vous aviez du talent, mais les choses se sont bien rapidement
oui,
mises en
vrai.
Route.
Mais je suis assez aussi heureuse des jolies rencontres qui ont du sens. C'est-à-dire que c'est ouais. pas hasard si on s'est rencontré avec Jean-Michel Ribes, avec Bruno et Denis Podalydès. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Avec Michel Faux maintenant, il y a un langage commun en oui. fait. Et c'est assez agréable.
Un goût de la comédie d'ailleurs.
Un goût de la comédie, de la poésie, ouais. de la ouais. fantaisie. Et c'est assez agréable pour un artiste de se sentir désiré à un endroit qu'il désire aussi.
Tiens, moi qui suis vosgien en partie, je vous pose la question, c'est comment de jouer au théâtre de Bussan ?
C'est une aventure extraordinaire. Extraordinaire.
Il faut préciser, hein, c'est un théâtre dans la nature,
tout
au col
fait.
De Bussan.
Exactement, c'est un théâtre dans un petit village voilà, qui s'appelle Bussan. Il y a très peu d'habitants, je ne sais pas, peut-être 1000 ou 2000, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et donc, l'été, il y a deux spectacles, hein, l'après-midi et le soir, qui se déroulent entre, je dirais, mi-juillet et fin août. Et ce théâtre peut contenir 800 spectateurs, et tous les jours...
Le théâtre du peuple.
Le théâtre du peuple, voilà. Exactement. Et sur le cadre du bord de Seine, est inscrit par l'art pour l'humanité.
C'est
voilà,
beau.
C'est
tout
beau.
Un programme.
Voilà. Et tous les soirs, tous les jours, il y a 800 spectateurs par spectacle qui arrivent là, dans ce village. C'est assez magique.
Vous y avez joué
deux fois
au début.
Exactement. J'ai joué Foi, Amour, Espérance de Horvat, mis en scène par Cécile Garcia-Fogel, et Le Réviseur de Gogol, mis en scène par Christophe Rauch, qui était un spectacle musical.
Voilà. Voilà,
assez extraordinaire, ouais.
La musique, donc, la voilà. Et la musique, elle vous a jamais quitté. On le comprend, donc, y compris dans vos débuts de comédienne. Et parce que vous avez finalement eu assez vite envie de faire quelque chose aussi dans ce domaine. Et ça a été lié aussi à la rencontre que vous avez faite alors avec notre ami Philippe Meyer.
Oui, tout à fait. Et alors, d'ailleurs, encore une fois, il n'y a pas de hasard. J'ai, à ma sortie de conservatoire, j'ai créé un petit récital. Vous savez, quand on est conservatoire, on a le droit à ce qu'on appelle les cartes blanches. C'est-à-dire qu'on fait ouais. ce qu'on veut. En gros, voilà, on ouais. décide à telle date, je vais faire tel spectacle. Donc, j'ai choisi de créer un petit récital. Et un ami, Benoît Carré, un ami commun avec Philippe, l'a invité et ouais. il est venu et il m'a engagé tout de suite dans son spectacle L'endroit du cœur qu'il a écrit, ponctué de chansons qu'on a joué au Théâtre des Abbesses et qui a été mise en scène par Jean-Claude Pinchenat.
Voilà. Voilà. Et quand vous avez voulu ensuite monter votre propre récital, je crois que Philippe vous a encore aidé à explorer un peu ce répertoire de chansons d'autrefois qu'il connaît fort bien et qui est si vaste.
Ouais, ouais, bien sûr, évidemment. Et puis son émission qui était quand même ouais. fameuse, La prochaine fois je vous le chanterai, où on avait, enfin voilà, j'ai découvert des chansons incroyables. Oui, ça a été une rencontre merveilleuse et on continue d'ailleurs de chanter ensemble. On a fait Grignan encore cette année.
Voilà. Avec, bon, bah, on le salue s'il nous entend.
On le salue, oui, exactement.
Et, ouais. Oscar et Irma, alors cette chanson, dites-nous-en un petit peu plus sur ce titre qui est dans votre récital. Je ne sais
oui.
pas si c'est Philippe Meyer qui vous l'a fait découvrir, celle-là. Mais...
Eh bien, si, cette chanson-là, je la chantais justement dans l'endroit du cœur qu'a écrit Philippe.
Voilà. Chanson amusante parce qu'il y a des grands silences entre les couplets. Enfin, il y a
oui.
une espèce de jeu avec le silence. En
exactement.
Cas.
En plus, c'est une chanson à cinq temps, donc c'est assez
voilà.
bancal.
Voilà, c'est ça.
Comme l'est le couple. voilà.
Comme le sujet. En général,
voilà.
c'est le sujet
exactement.
De votre spectacle.
Il était pas beau, il était miro, il était méchant, il venait de Saint-Ouen. Il était tocard, il s'appelait Oscar, il avait pas d'autant. Elle était fimère, mais pas trop amère, elle était jolie comme un bigoudi. Elle vendait des bas, elle s'appelait Irma, elle avait pas d'amant. Il n'est pas utile d'avoir des bijoux, il n'est pas utile d'aller au Pérou. Il n'est pas utile d'avoir de beaux genoux pour rendre un homme heureux. Ils se rencontrèrent avenue des Gobelins, ils se sourièrent, ils prirent le train. Ils s'appelaient Oscar, elle s'appelait Irma, c'était le mois de mai. C'est ma fiancée, disait-il tout le temps. C'est mon fiancé, disait-elle tout le temps. Ils sont fiancés, répétaient les gens qui répètent n'importe quoi. Elle lui dit t'es beau, il devint très beau. Elle dit t'es marrant, il devint marrant. Tu n'es pas tocard, il ne fut plus tocard. Il acheta une auto. Un jour il osa l'appeler Irma. Il coula une bielle mais n'eut pas de fiel. Irma près de lui c'était le paradis. Ils reprirent le train. À la gare du Nord, il y a des grands navires. À la gare du Nord, il n'y a pas un sourire. À la gare du Nord, on peut tout se dire. Il lui dit, elle le crut. Ils se marièrent en catimini. Toujours ils s'aimèrent et ça les surprit. Il s'appelait Oscar, elle s'appelait Irma. Comme vous, comme moi. Ils firent la concours du plus grand amour. Afin de gagner 3 semaines à Poitiers. Ils finirent deuxième, en eurent de la peine. Car Poitiers, c'est joli. Nous sommes heureux, disait-il tout le temps. Nous sommes heureux, disait-elle tout le temps. Ils sont très heureux, répétaient les gens qui répètent n'importe quoi. Qui répètent n'importe quoi. N'importe quoi.
Oscar et Irma, une des chansons du récital, si j'ose dire, d'Emeline Bayard, avec votre pianiste Manuel Peskin. Il faut dire qu'il joue un rôle important dans cette soirée que j'ai pu découvrir dans la cave du Kibélé.
Tout à fait. Emmanuel qui est formidable, qui est un acolyte, qui non seulement un très bon pianiste, mais qui a compris fondamentalement l'art de l'accompagnement et l'art de l'accompagnement avec Emeline Bayard. C'est vrai que j'étais extrêmement exigeante et que je l'ai beaucoup embêtée parce que je n'hésite pas à couper des phrases, et pour un musicien classique c'est assez déroutant. Et Manuel a tout compris,
c'est savoureux, très drôle, en
exactement
tout cas.
Et il campe un vrai personnage de contrepoint avec la chanteuse. Et du coup c'est super
dans cette cave. Vous vous êtes retrouvé déjà pour la création de ce spectacle, comment vous êtes arrivé là, c'était votre quartier?
Non, pas du tout. J'ai découvert cette salle qui me plaisait énormément parce qu'elle était petite, parce qu'il y avait cette petite scène, ce rapport au public,
cette proximité,
le fait qu'on puisse rencontrer les spectateurs après, qu'ils puissent dîner en haut parce qu'il y a un restaurant en haut, qu'on puisse échanger. Il y a un piano en permanence, donc qui n'est pas forcément évident. Il n'y a pas des pianos partout. Et surtout, on peut choisir des dates un peu comme ça. Quelques mois à l'avance, je pouvais jouer quand je voulais, donc ça m'empêchait pas de faire d'autres projets. Là, par exemple, je loue lundi, comme ça je peux jouer fric-frac à d'autres moments, donc ça m'allait bien, cette formule-là. Voilà. Mais ce Ristel a une vie assez incroyable, puisque nous l'avons joué donc chez Jean-Michel Ribaud à Turon-Point en mars 2016, et ça a tellement bien marché qu'on l'a repris en janvier 2018. On a une énorme tournée, on a sillonné la France avec ce récital, dans des petites salles, dans des grandes salles, on est allé jusqu'à 700 places. Il s'est super bien exporté. Et ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est que très souvent, le public me dit « Vous nous avez rendu heureux ». Alors, c'est une formule, moi, qui me va très bien. C'est-à-dire que le pari est rempli quand on est artiste. Voilà.
Et pourtant, les chansons sont parfois nettement cruelles.
Mais la cruauté au théâtre réjouit. Elle réjouit. Je pense qu'il faut aller loin pour que les gens rient.
D'ailleurs, vous faites rire aussi dans Fric-Frac parce que vous êtes dans des situations catastrophiques.
Oui, exactement.
Le temps. Et plus ça va mal, plus vous faites rire.
Et puis surtout, elle peut être parfois très méchante, ouais. Mais sa dose d'humanité est toujours là, en fait. Elle reste extrêmement touchante. Enfin, là, on bascule à René, là, dans Fric-Frac, mais elle peut être très cruelle et en même temps, elle est débordante d'amour pour cet homme qui n'a pas de sentiments pour elle, et ça la rend extrêmement touchante. Voilà.
C'est drôle, parce que vous dites que votre grand-père était mineur, mais vous avez un côté dans le personnage assez bon chic, bon genre, dans Fric-Frac, et ça vous va très bien aussi.
Eh bien, écoutez, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un métier, et je vais vous dire, je ne suis pas du tout la même dans la vie que sur scène. Et ça, c'est important. Voilà. D'ailleurs, je pense que je suis une grande banalité dans la vie. Et la scène, la scène, c'est le lieu de tous les interdits et le lieu de toutes les transformations possibles.
Alors, vous vous demandiez où est-ce que vous pourriez avoir la liberté de jouer en chantant. Je vous disais, il y a quand même les scènes d'opérette. Est-ce que c'est un genre qui vous intéresse un peu, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est plus difficile d'en voir qu'à d'autres époques, mais ce serait idéal pour une artiste comme vous d'aller chanter des airs d'opérette.
Oui, ce serait idéal. J'aimerais beaucoup un bon entendeur, si un metteur en scène qui a envie d'engager.
Vous êtes partant,
Bien sûr. Ah oui, 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 Maurice Yvain, Offenbach.
Maurice Yvain, vous faites tellement plaisir.
Oui.
Parce que vraiment, on le joue rarement aussi.
Oui, Maurice c'est vrai. Yvain. Ben oui, c'est vrai. Mais bien sûr, moi, je j'aimerais beaucoup. Ouais.
Alors, je vous propose qu'on écoute. Je crois que vous aimez bien, justement, ben voilà, une artiste lyrique qui aime bien flirter avec la légèreté, c'est Felicity Lott.
Oui, et je trouve qu'elle a une diction impeccable alors qu'elle n'est pas française.
Oui, c'est
ça. Une diction en français remarquable. Et j'aime son raffinement. Voilà, je trouve que c'est une artiste raffinée. Elle me plaît, ouais.
Et on va l'entendre justement dans Yes, une opérette de Maurice Yvain.
Je ne me doutais guère quand je suis partie pour l'Angleterre en sachant seulement dire yes tout simplement à quel point j'étais téméraire. Ah, c'est fou ce que ce mot peut être dangereux, sournois, perfide et traître. Ce petit oui étranger est si doux, si léger qu'il paraît sans aucun danger. Il nous faut pas s'y fier car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit par lequel on dit qu'on acquiesce. Yes. C'est un mot si gentil qu'il entraîne à toutes les gentillesses. Yes. Devant le régisteur, sans amour et sans peur, je m'amène à 3 heures. Et sachant que c'est pour rire que l'on va nous unir, je dis yes.
Yes, yes.
Au retour dans l'auto, votre main prend ma main, je la laisse. Yes. Grimpant sous mon manteau, elle voyage et prend de la hardiesse. Yes. Me posant tout à coup, un long baiser dans le cou. Vous me dites, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Est-ce que je continue? Yes. À l'hôtel, on arrive. Mon émotion était des plus vives. Vous me dites, mon petit loup, nous voilà bien chez nous. Mais je restais sur le qui-vive. Puis vous dites, chère petite compagne, voulez-vous boire un doigt de champagne? J'ai la grande faiblesse, rien que par politesse, de répondre alors encore yes. Car l'extra dry me mit sur les minuit et demi dans un charmant état d'esprit. Et blottie près de toi, tu me dis, prouve-moi ta tendresse. Yes. Un mari a le droit d'exiger, c'est la loi des caresses. Yes. Puis tu me fais tout bas, enlève donc tes bas, et le reste tombant près de moi, viens dormir. Croyons que c'était pour rire, j'ai dit yes.
Yes, yes.
Puis tu me dis, veux-tu que j'éteigne la lumière dans la pièce? Yes. Comme on est peu vêtu, chauffons-nous bien chérie, que je te presse. Yes. Et serré dans tes bras, doucement te
Felicity Lott dans Yes de Maurice Yvain. J'espère que vous jouerez un de ces jours du Maurice Yvain
d'ailleurs,
parce que c'est vraiment un grand compositeur. Mais même si vous n'avez pas encore chanté d'opérette, vous avez quand même chanté à l'Opéra Comique, ce qui est quand même encore au-dessus de l'opérette.
Oui, c'est vrai. J'ai chanté un deuxième récital que j'ai créé. Grâce à Olivier Monteil.
Voilà, il était venu vous voir lui aussi, mais ça se passe toujours comme ça avec vous. On vient vous voir, puis on tombe sous le charme, et puis on vous propose quelque chose.
Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. Il a vu le premier, donc d'elle à lui, puis il m'a dit, mais faut venir en faire un, l'opéra comique. Donc j'en ai créé un qui s'appelle toujours Si j'ose dire.
Voilà. Un deuxième tour de chant, voilà, donc avec d'autres chants. Alors quel était le thème là de Si j'ose dire?
Là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de thème. C'est vrai que dès la lui, c'était le couple. Je m'étais centrée dessus. Pour l'opéra comique, comme il m'avait demandé une formule un peu cabaret, donc j'avais plutôt axé sur la forme. J'avais plutôt choisi des chansons en fonction de l'espace, de la forme. Donc je voyageais au milieu des spectateurs.
Ah oui.
Et puis il y avait du champagne. Je m'amusais avec une bouteille de champagne à un moment donné sur Je suis pocharde.
Ah oui.
Voilà, qui a aussi une chanson extraordinaire. Et il y avait des textes aussi de Alphonse Allais. Enfin.
Vous vous mettez en scène vous-même, Emeline Bayard?
Oui, pour ces récitals, oui.
Voilà. Et en tout cas, on espère que celui-là, vous allez le reprendre aussi, qu'il va tourner aussi, comme Dell et lui.
Oui, tout à fait.
Puisqu'il n'a été, lui, donné qu'une seule fois.
Quatre fois.
Enfin, l'opéra comique. Dans un seul endroit, je veux dire. Et puis, également, alors il faut dire qu'entre-temps, de toute façon, votre carrière aussi au cinéma a pris un essor important, notamment avec Bruno Podalides, avec qui vous avez fait trois films.
Oui. Ça a commencé par Banc Public en 2008 ou 2009. Après, il y a eu Adieu Berthe. Quand est-ce qu'il est sorti? 2012, je crois. Et Bécassine, qui est sorti là en juin 2018.
Voilà, Bécassine. Alors, on a tous vu cette affiche très, très drôle avec vous, mais la tête enserrée.
Coiffée en Bécassine.
Voilà, en Bécassine. Alors, c'était encore une aventure, j'imagine, très particulière et amusante pour une fille du Nord comme vous, d'aller jouer la Bretonne qui monte à Paris en des temps révolus.
Oui, c'était surtout assez formidable pour moi d'incarner la Bécassine de Bruno Podalides, qui est extrêmement poétique.
Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait le personnage qu'on lit dans les dessins d'époque. Enfin, il est réinventé d'une certaine façon.
Il est réinventé, mais de toute façon, parce qu'évidemment, je me suis penchée sur les albums quand Bruno m'a proposé Bécassine, mais je trouvais que justement, elle est surtout dans les dessins, je trouvais vraiment jolie, poétique. Je la trouvais pas godiche du tout. Je suis contente que Bruno soit allé dans ce sens-là. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de l'attraper comme ça. Elle était touchante, candide, mais pas niaise. Et puis, il y a une relation à la petite fille qu'elle élève, qui est forte, qui est aussi extrêmement émouvante.
Oui. En tout cas, voilà, c'est un très joli film, moi, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et dans lequel vous chantez pas.
Une berceuse.
Oui, une berceuse, mais Bruno
Podalides.
Bruno Podalides, c'est peut-être celui qui pourrait un jour vous faire vraiment chanter au cinéma, puisqu'il vous connaît si bien.
Oui, c'est vrai, mais il a été happé par ce récital qu'il a vu plusieurs fois. Il est aussi venu à l'Opéra Comique voir le deuxième. Et en plus, il adore ces chansons-là qui racontent des histoires. Peut-être qu'un jour, il aura une idée de film liée à ça. C'est fort possible.
Ah, voilà.
On verra. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça lui parle beaucoup.
En tout cas, avec Bécassine et maintenant Fric Frac, on dirait quand même que vous avez le sentiment que quelque chose a changé. Vous avez encore franchi une marche ou deux ou trois d'un seul coup, là, et notamment avec le triomphe de Fric Frac et vous-même dans Fric Frac.
Oui, mais en fait, c'est vrai que l'exposition, je le vois, je la sens, est plus importante. Alors, je pense que c'est lié aussi de jouer dans un théâtre privé à Paris. On se rend compte que l'exposition est plus grande, on joue longtemps déjà.
Ouais.
Donc, les spectateurs, les professionnels ont le temps de venir vous voir, toutes les critiques viennent, les médias, etc.
Donc, même le président de la République.
Oui, tout à fait. Le président de la République, Emmanuel et Brigitte Macron sont venus voir Fric Frac, exactement.
Voilà, en tout cas, grand succès qui continue jusqu'au 31 décembre au Théâtre de Paris. Alors moi, j'ai fait un petit montage pour vous, puisque vous ne chantez qu'une berceuse dans Bécassine. J'ai choisi trois chansons sur Bécassine. Finalement, elle a beaucoup inspiré de chansons.
Mm-hmm.
Et on va les entendre l'une à la suite de l'autre.
Avec plaisir.
Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Les seigneurs du voisinage, les gros bonnets grands personnages, rêvaient de joindre à leur blason une boucle de sa toison. Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine.
Musique. berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui mais voilà, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit, puisqu'elle ira en classe ici à Cloche et les Bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler.
Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, et la cousine. Marie qui louche ma bise beaucoup, ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous.
Une robe vert salade, un bonnet apprêté, un parapluie d'escouade, un petit sourire futé, son tablier flottant sur sa taille mutine, elle va se dandinant de Quimper à Dinan. Bécassine, Bécassine, quand tu vas courir ainsi parmi les collines. Bécassine, Bécassine, au bal avec les garçons, fais bien attention. Les lutins, les farfadets, les fées de la lande, du plus loin qu'il la voyait, en cœur lui criait: Bécassine, Bécassine, prends bien garde à ta vertu, chapeau pointu.
Voilà, je pense que vous en connaissiez deux sur les trois.
Deux, ouais. Et la, c'est la troisième me rend folle.
C'est la mieux, hein.
Ah, j'aimerais bien la chanter, la troisième.
C'est Lisette Jambel, ouais. Une chanteuse bien oubliée aujourd'hui, avec l'orchestre de Raymond Legrand en 1953, et ça s'appelle aussi Bécassine.
J'aime beaucoup Bécassine, prends garde à ta vertu.
Bon, Chantal Goya, vous l'avez entendu, petite fille, j'imagine.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà.
Oui.
Et puis le Brassens, vous l'aviez déjà entendu.
Oui, je la connais, c'est celle de Brassens.
Voilà, en tout cas, un petit fleuri de Bécassine, le film et le rôle que vous avez joué, Emmeline Bayard, avant donc Fric Frac, et maintenant Fric Frac qui continue en même temps que votre récital Dès la Luit. C'est quand la prochaine représentation?
Dès la Luit, ce sera le 14 et le 15 janvier.
Voilà, mais alors le problème, c'est que c'est tout le temps plein au Kibélé maintenant,
c'est
surtout
tout le temps
que vous
plein.
Êtes devenu célèbre.
Voilà. Oui, c'est vrai. En plus, c'est moi qui gère les réservations, mais moi je suis très
Et vous
ouverte.
Passez avec votre chapeau à la fin.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Il faut dire,
c'est aussi
à l'ancienne.
Pour ça, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime ce lieu, c'est parce qu'on peut le jouer au chapeau. Mais si les spectateurs ont envie de découvrir ce récital qui ne désemplit pas, ce récital que j'appelle antidépresseur, ils peuvent aller sur Bière et Duc, par exemple. Je ne sais pas si on peut le dire.
Et voilà,
prendre des places, ou même sur un réseau social, sur Facebook, et me réserver via ma messagerie.
Voilà, mais enfin, à une ou deux représentations par mois, il va falloir prendre des places pour l'année prochaine, ou dans deux ans, ou dans trois ans.
Peut-être qu'il meurt jamais ce récital, donc on le reprendra peut-être ailleurs.
Bon, en tout cas, voilà, un très beau récital d'une vingtaine de chansons, des chansons, je le disais, d'hier et d'aujourd'hui, parce que on a commencé avec Yvette Guilbert, et on pourrait citer d'ailleurs toujours d'Yvette Guilbert, Madame Arthur, que vous chantez également, ou des chansons anciennes de Marie Dubas, comme le tango stupéfiant, et puis des chansons contemporaine de Juliette par exemple, et tout ça se marie d'ailleurs très très naturellement. Ça m'a surpris parfois, j'ai cru que certaines chansons étaient de 1900 alors qu'elles étaient de 1950. Tout ça se répond.
Oui tout à fait. Oui ben il y en a deux donc qui sont contemporaines, c'est Mes mères dans les orties écrite par Juliette, et puis Bernard Joyer qui a écrit La Gérontophile
qu'on va écouter dans un instant,
qui date de 2001 toutes les deux. Et effectivement ça a quelque chose à voir avec la langue, avec la poésie de qu'injectent Juliette et Bernard Joyer, et c'est, effectivement ça se fond dans le thème parfaitement, quoi.
Voilà, il y a aussi des chansons alors plus des années 50-60 comme Ce Concerto par exemple,
tout à fait,
de Françoise Dorin et Michel Hémer, très très drôle, très réussi,
très très drôle, très savoureux à interpréter. chanter.
Que Jacqueline Maillan, je crois d'ailleurs, avait enregistré.
Ah, immortalisé, voilà, oui. Maillan, qui était quand même la compagne de Aimer, la femme de Aimer. Et je ne sais pas s'il l'a écrite pour elle, mais en tout cas, elle l'a chantée. Ouais, ouais.
Ce serait un genre de modèle pour vous, Maillan?
Oh, oui.
Vous avez des actrices fétiches, oui. Emeline Bayard?
Bah, Maillan en fait partie.
Maillan en fait partie.
J'ai une des actrices fétiches très différente. Il y a aussi Gina Rowlands, par exemple. Rien à voir avec Maillan. Mais bien sûr, je suis fan inconditionnel de Maillan. Ouais.
Voilà. Alors, justement, on va peut-être écouter, pour illustrer un des thèmes qui courent dans votre récital, la question de l'amour, l'amour de la vieillesse, l'amour des vieux. Yvette Guilbert a fait aussi une très belle chanson, d'ailleurs, sur le sujet.
Les vieux messieurs.
Les vieux messieurs.
Oui. Ah, oui, oui.
Et vous, c'est donc la gérontophile de Bernard Joyer. C'est une chanson très, très drôle qu'on retrouve donc ici en duo avec Manuel Peskine.
Certaines de nos congénères ont la manie bien singulière d'exercer leur pulsion sexuelle sur plus jeunes qu'elles. Quelques dangereuses maniaques guident leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvenceaux et les puceaux. Pubères, nébiles et novices sont l'objet de leurs sévices. Elles font la sortie des lycées, c'est insensé, insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance perpétrée par ces drôles de dames peut faire des drames. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. De ce côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile. La bonne soupe dans les vieux pots, c'est mon topo. Viens mémé, pépé, viens pépère, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignon, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. J'aime les doyens et les douairiers, et les grisons et les rombiers, les croulants académiciens, je fais dans l'ancien. Maison de retraite hospice, voilà des endroits propices. On a calvé le petit doigt, on a le choix. J'aurais, d'après les psychologues, l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire, de l'antiquaire. Viens mémé, pépé, viens pépère, le temps fait du bien de l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignon, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Dans les cimetières, il y a des veufs, presque tout frais, presque tout neuf, qui tomberaient la culotte de deuil en un clin d'œil. Combien sont seuls dans nos campagnes, abandonnés par leurs compagnes, en panne sur la page 3 du Kama Sutra. Cela ne demande qu'à nous suivre, histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Viens mémé, pépé, viens pépère, le temps fait du bien de la faire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Petit examen s'impose, mignon, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez user, carte vermeille, ridez tes crépiers dentés, ça peut me tenter. Le muet amplifie le geste pour montrer qu'il a de beaux restes, et le sourd crie bien plus fort encore, encore. Monsieur, quel désir vous agite? C'est le diable qui vous excite. Non madame, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. Viens mémé, viens pépère, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignon, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Parfois, ma déraison s'égare. Je rêve de la perle rare qui aurait été l'amant de Jeanne Calment.
La gérontophile, Emeline Bayard, chanson de Bernard Joyer. Moi, j'adore, mignonne, allons voir si l'arthrose.
Ouais.
Et ça marche très bien, d'ailleurs, dans le public, il y a des tas de petites phrases drôles dans les chansons comme ça.
Et en plus, il ne faut pas oublier de dire quand même qu'on entend, parce que là, j'entends le son, il y a les trois quarts de perdu, parce que c'est vrai que...
Il n'y a pas l'ambiance du cabaret.
Et puis, et surtout, il n'y a pas la scène, c'est-à-dire le personnage, et ça, c'est souvent ce que me disent les spectateurs, c'est-à-dire que le disque est fait comme un souvenir. souvenirs, mais en fait, l'important, c'est le plateau, quoi. C'est pour
et
ça
le contact
que, c'est
avec
pour
le public.
Et oui, et c'est pour ça que je continue de le jouer, parce que ce qui est vraiment important, c'est de le voir, de le vivre sur le moment. Parce que je le répète, l'interprétation, le jeu passe avant le chant.
Donc, oui, mais alors moi qui adore les chansons, en même temps, pour moi, c'est aussi l'occasion de découvrir des chansons quand je vous écoute.
Oui.
C'est le plaisir de vous voir, mais en
oui,
même temps,
vrai.
Je me dis, ah, celle-là, je la connaissais pas, de qui elle est. Elle est formidable,
oui, c'est
etc.
Vrai. Mais j'ai quand même épluché 5000 chansons pour en garder 20.
5000 chansons.
Oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de perles dans le récital.
Ah oui, vraiment.
Et les spectateurs le disent, oui, parce qu'elles sont extrêmement bien écrites et. Pour trouver 20 perles, il faut en éplucher 5000, pardon.
Vous travaillez votre voix, Émilie Bayard?
Oui, oui, alors je la travaille, je fais des vocalises, des choses comme ça. Mais encore une fois, pas comme un chanteur lyrique.
Pas comme un chanteur lyrique, ouais. Bien sûr. Comme une comédienne qui chante, mais autrefois, les comédiens chantaient presque tous, finalement.
Oui, c'est vrai.
Donc vous ne faites que renouer avec une tradition.
Oui, c'est vrai.
Celle de ceux qui ont créé Fric Frac au cinéma, par exemple. Arletty, chanteuse, Michel Simon,
vrai.
Chanteur un peu, Fernandel, merveilleux chanteur.
Ouais, Bourvil, chanteur.
Bourvil, chanteur.
Brel, d'abord chanteur, merveilleux acteur.
Oui,
oui, c'est vrai. Mais de toute façon, je me sens actrice sortie d'il y a quelques décennies. Donc ça me va très bien.
Le paradoxe, c'est que celui qui vous a lancé dans ce métier, c'est plutôt quelqu'un qu'on associe vraiment à l'avant-garde. Alors Rabeux.
C'est vrai, et Rib aussi quand même.
Et Rib aussi.
Ouais,
et
c'est vrai.
Finalement,
vrai.
Vous allez de plus en plus vers le boulevard, vers le divertissement. Un peu que vous suivez le même chemin que Michel Faux, votre metteur en
c'est
scène.
Vrai.
Hein.
Ouais. Ouais, je suis assez admirative du chemin de Michel Faux.
Oui.
Non, mais on peut dire atemporel, hein, mais c'est ça le aussi comme Michel Bouquet, par exemple. C'est ça le principe d'un acteur, c'est de pouvoir jouer un maximum de choses liées à différentes époques, parce que en étant universel, on arrive à toucher un maximum de spectateurs, je pense. Voilà. Oui, j'aime le parcours de Michel. Je trouve que déjà c'est un acteur fabuleux. Je trouve que c'est formidable qu'il exhume comme ça les vieux boulevards qu'on connaît plus, avec un langage singulier, fort, avec des histoires bien ficelées, avec des belles chutes. Enfin, je trouve qu'il a raison. Et puis, il redonne un panache à ce boulevard qu'on a un peu perdu. En fait.
Et vous-même, alors, vous avez, je crois, un goût particulier pour un auteur que j'adore et que vous allez bientôt monter, c'est Fedot.
Oui, tout à fait, Fedot. Fedot, pour moi, c'est le maître incontesté du vaudeville.
Voilà. C'est le plus drôle et c'est le plus cruel, là, encore.
Exactement. Mais mais encore une fois, plus c'est cruel, plus c'est drôle.
plus c'est drôle. Donc, le projet.
Oui, voilà, je vais monter On purge bébé, qui est une pièce courte de Fedot et qui sera ponctuée par des chansons.
Voilà, donc ponctuée par des chansons que vous ajoutez, pour le coup.
Que j'ajoute, voilà. Exactement, qui seront évidemment liées à l'histoire dans les moments d'apogée, d'apothéose. Et ça en fera un spectacle, voilà. Ce sera dans un an et demi.
Voilà une belle perspective
pour
nous. Alors merci, Émeline Bayard, de nous annoncer ce retour en théâtre et en chanson.
Exactement. Et je vais la monter et je jouerai dedans. Voilà.
Bon, on attend avec impatience.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Moi, je propose qu'on se quitte avec une autre chanson de votre spectacle. Alors, pour changer un peu, là, j'ai été rechercher la version d'origine parce que c'est quelqu'un. Je ne sais pas si vous aimez la voix de Patachou.
Ah, j'adore.
Hein?
J'adore Patachou.
Quelle jolie voix.
Ah oui.
Voilà. Et c'est le bricoleur qui marche toujours aussi à tous les coups devant le public.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ben merci Émilie Bayard.
Merci
on vous laisse
vous.
Retourner à Fric Frac.
Oui.
Et on attend le mois de janvier pour revoir d'elle à lui. À bientôt.
À bientôt, Benoît. Merci.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À À l'heure actuelle, ils fabriquent un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin.
Boîte à outils, boîte à outils.
Mais dans ses calculs, il se trompe. Et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Boîte à outils, boîte à outils.
Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal.
Boîte à outils,
c'est commode, je vous jure.
Boîte à outils.
Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain brequin. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
Patachou en 1952 dans cette chanson de Georges Brassens, qu'elle a d'ailleurs, vous le savez, contribué à faire connaître. Et cette chanson, vous la retrouvez dans le récital d'Emmeline Bayard, d'elle à lui, un récital qui sera repris donc au fil des mois. Le mieux, c'est de suivre sur Internet et vous avez encore quelques jours également pour aller applaudir Emmeline Bayard dans Fric Frac au Théâtre de Paris.
Thank you.
Voilà, ça c'était pour vous mettre l'eau à la bouche à quelques jours du concert du Nouvel An. Citoyen viennois, Wiener Burger, c'est le nom de cette grande valse de Karl Michael Zierer, qui a été un des maîtres de la musique légère viennoise. C'est son opus 419, il en a écrit énormément. Et là, c'était John Elliott Gardiner qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais puisqu'avant le Nouvel An, nous avons Noël, eh bien j'ai encore un autre petit cadeau pour vous, une chanson de Noël, ça va de soi, il en faut au moins une. Et celle-là, j'ai été la chercher en 1948 dans l'orchestre de Spike Jones, vous savez, l'humoriste musical américain Spike Jones, et ses City Slickers qui avaient obtenu un immense succès en 1948, donc avec cette chanson intitulée « All I Want for Christmas is My Two Front Teeth ». C'est une petite fille qui a perdu ses deux dents de devant et elle voudrait avoir deux nouvelles dents pour Noël, parce que chaque fois qu'elle dit cette phrase avec les front teeth, ça fait un petit sifflement au lieu d'arriver à prononcer réellement les consonnes. Et c'est donc George Rock, un complice de Spike Jones, qui chante et qui interprète le rôle de la petite fille avec les sifflements.
It was the night before Christmas, and all through the house, not a creature is stirring, not even a mouse. Suddenly I heard a strange noise down below. So in my flannel pajamas, I went tippy-toe. I could see your Saint Nick from the spot where I stood. So I slid down the banister just as fast as I could. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth? Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
J'espère qu'elle va les avoir, ces deux dents de devant, cette charmante petite fille chantée par George Rock avec l'orchestre de Spike Jones en 1948. Quant à moi, je vous ai apporté encore une petite merveille avant de bientôt nous quitter. C'est ce concertino d'Arthur Honegger, une œuvre brève aux frontières de la musique divertissante, de la musique classique et du jazz. Une œuvre de 1924 qui fut créée à l'Opéra de Paris par André Vorabourg, la femme d'Arthur Honegger, sous la direction de Serge Koussevitz. On l'écoute dans la version enregistrée par Jean-Yves Thibaudet et Charles Dutoit. Le concertino pour piano et orchestre d'Arthur Honegger par Jean-Yves Thibaudet au piano avec l'orchestre de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en musique un joyeux Noël. J'ai choisi pour cela le fabuleux final du deuxième acte de la Péricole au cours duquel il arrive beaucoup d'ennuis au pauvre Piquillo, chanté ici par José Carreras avec également Teresa Berganza et Gabriel Baquier. L'orchestre et les chœurs du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson.
J'entre la fête, saute dessus. Car mon oncle, je n'avais plus. Il est trop bête, saute dessus. Saute dessus,
saute dessus, saute dessus. Saute dessus, saute dessus. Saute dessus, saute dessus. Saute dessus,
saute dessus. Saute dessus,
saute dessus. Saute dessus, saute dessus. Saute dessus, saute dessus.
Saute dessus, saute dessus. Saute dessus, saute dessus.
Faut-il faire, grand roi, que faut-il faire?
Et que cet exemple serve dans le cachot qu'on réserve au mari Ré, au mari Cal, au mari Si, au mari Tram. Au mari récalcitrant, au mari récalcitrant.
Oh, Marie,
oh, Marie.
gâteau qu'on réserve, qu'on réserve, qu'on réserve.
Attention à vous les maris récalcitrants, ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'était le final du deuxième acte de La Péricole sous la direction de Michel Plasson. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Bruno Mourland, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, nous fêterons jour pour jour les 100 ans de la naissance de Mado Robin en compagnie de Roberto Benzi et Mathieu Moulin. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.